Alors, les banques, dans leur pouvoir infinitésimal, contrôlent maintenant notre gouvernement, ce qui fait qu'il y a un régime de terreur qui tente de mettre ici pour empêcher les étudiants de protester contre une hausse des frais scolarité. Mais ce qu'elle fait, cette hausse de frais scolarité-là, en bout de ligne, c'est que les riches peuvent payer immédiatement la hausse, c'est-à-dire 5 000 par session, tandis que les pauvres doivent contracter des prêts à 9 % d'intérêt environ. Et là, ils nous disent qu'ils nous font un cadeau en nous permettant d'étaler notre paiement sur un régime de remboursement proportionnel aux revenus. Et donc, on va prendre, au lieu de 8 ans comme on faisait avant dans ce régime, 40, 50, 60, 70 ans pour payer nos frais scolarité, jusqu'à la mort s'il le faut. Imaginez les frais d'intérêt qu'on va payer sur une facture de 5 000 par année. Un bac en ce moment juste pour se nourrir, se loger, payer notre logement. Nos frais de subsistance font en sorte qu'au lieu de prendre 3 ans, ce qui est le régime normal, nous prend déjà 5 ans. Et au rythme des frais où ils sont en ce moment. Là. Les gens disent souvent qu'on a les frais les plus bas en Amérique du Nord, mais on a aussi les salaires les plus bas en Amérique du Nord. Et on paye énormément d'impôts. Et le pacte social qui a toujours été fait ici, c'est de dire que les aînés vont payer pour les jeunes pour qu'ils puissent s'éduquer dans des domaines qualifiés, pour avoir des emplois rémunérateurs plus tard, comme infirmières, ingénieurs, géographes, sociologues, anthropologues. Et ces métiers-là de formation qui vont donner une plus-value à la société vont permettre à l'État d'engranger plus de revenus fiscaux, donc d'impôts. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des infirmières quand on va être en fin de vie, qu'on va pouvoir avoir des soins de qualité pour nos aînés, qu'on va pouvoir avoir des centres d'hébergement. Et là, ce qu'ils veulent, c'est que les gens aillent moins à l'université. Parce que dans notre régime actuellement, si on va dans une formation professionnelle ou technique,
ils ont besoin d'ouvriers.
Ça coûte quasiment rien. Je leur enlève rien, il n'y a pas de sous-métier. Mais ça prend des gens qui peuvent réfléchir sur la société et l'amener à progresser. Et l'éducation, c'est pas un choix individuel, c'est un choix collectif. Pour moi, c'est un pacte intergénérationnel qui doit être sacré. Et l'impôt sert à ça. Les impôts, c'est le revenu des travailleurs. C'est donc de l'argent que l'État a déjà dans ses coffres. S'il investit 200 millions, c'est l'argent qu'il a déjà. Il n'emprunte pas, ne paye pas d'intérêt là-dessus. Là, ils veulent le mettre sur le dos des étudiants qui, eux, vont payer 9, 10, 12 %. On ne sait pas ce qui nous attend comme régime économique. C'est un scandale. Et de voir que l'anti-émeute est mis contre nous, qu'ils mettent les médias de masse contre nous en leur inventant des sondages bidons. Moi, je lis toujours les petites notices dans le bas des pages. C'est des sondages qui sont faits sur Internet, pactés par des militants du Parti au pouvoir. Et là, ils nous mettent ça en front page des journaux, la presse, en disant que 60 % de la population est derrière eux. C'est un scandale. Ça me révolte. Et de voir qu'on envoie du gaz lacrymogène sur les enfants qui sont censés être sacrés, c'est la relève. En Occident, quand on blesse des enfants, c'est un sacrilège. Et là, la population nous regarde comme si c'était nous les terroristes. Je suis outré. Et je crois, moi, à la République, à un gouvernement qui a une séparation des pouvoirs entre le législatif, le juridique et le judiciaire. Ici, on voit que la ministre s'approprie les pouvoirs juridiques, s'approprie les pouvoirs politiques, s'approprie les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et c'est complètement aberrant. Et vivement la monarchie dehors, ça suffit les privilèges. L'éducation, c'est un bien sacré qui appartient à tout le monde. Et ça me révolte.
Surtout à la relève.
Voilà. Et je souhaite que tous les peuples se soulèvent pour une grande alliance des peuples libres et éduqués.
Absolument!
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus Lille, vous avez reconnu, il est midi passé de quelques minutes. Les dictons du jour, voilà, Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne verras pas le haut, ou les bains que prend Saint-Norbert inondent toute la terre. Alors, autour des micros, Benoît Boussemard.
Oui, bonjour.
Bonjour. Marc Maille.
Bonjour.
Et André. On se retrouve pour un magazine durant lequel on parlera plus particulièrement d'économie, donc avec M. Benoît Boussemard.
D'économie politique.
D'économie politique avec M. Benoît Boussemard.
Absolument.
Au programme, la mise en scène du pouvoir, de l'argent et de la réussite via les classements des grandes fortunes, les montages financiers incroyables, l'évasion fiscale, les salaires astronomiques, les improbables cotations boursières, le dévoiement de la valeur travail, la précarisation, les licenciements boursiers, les délocalisations, les cercles d'influence, enfin bon, beaucoup de choses. Donc restez fidèles au 106.6 MHz de Radio Campus Lille. Et en introduction, vous avez entendu une vidéo qui est sur Dailymotion par Riquier, R-I-K-I-A-I. Donc une explication sur le conflit au Québec en ce moment. Mais bon, revenons à la France. Donc je vous rappelle que le mois dernier, Benoît était avec nous. Vous aviez fait des prévisions pour les élections présidentielles. Mes souvenirs sont exacts.
C'est bien ça. Donc dans le livre en question, donc on avait fait des petits pronostics. Hein. Il n'est pas très sérieux, mais on n'était pas tombé très très loin, puisqu'on avait pronostiqué 53% pour François Hollande. et 47% pour Sarkozy, en lui souhaitant de très très longues vacances. Donc, on est à 1% près. Là, il y a transformé l'essai pour les législatives. Et donc là, les choses deviennent vraiment sérieuses, puisque ça va dépendre des scores qui vont être faits plus à gauche pour entraîner fondamentalement le gouvernement sur une pente qu'il a commencé à gravir un peu, qui est difficile, notamment par rapport à tout ce qui se passe en Europe. Mais si la population continue sur sa lancée et vote clairement à gauche, il n'y aura pas de souci, on pourra faire quelque chose de la France et montrer à nouveau le chemin qu'il faut au niveau européen.
Voilà, donc des élections. Alors, ça m'a étonné parce que j'ai pas trop suivi, ces changements législatifs. Je me suis aperçu qu'à l'étranger, on votait une semaine à l'avance.
C'est ça. C'est... Donc les Français de l'étranger et puis...
Voire plus.
Le Polynésie, etc.
Voire plus, oui. Plus que ça, mais effectivement. Et le deuxième tour aura lieu à la même date.
Tout à fait.
Voilà.
Avec des résultats intéressants, puisque il semble que la gauche puisse assez bien l'emporter partout, mais avec un taux d'abstention très fort.
Oui, et donc, avec un énorme taux d'abstention, ouais. Avec peut-être un étonnement, parce que finalement, à l'étranger, il y a beaucoup d'émigrés fiscaux ou de chefs d'entreprise. Enfin, je veux dire, on parle rarement des prolos émigrés à l'étranger. À New York, certainement pas.
En Belgique non plus.
Ou ailleurs, en Belgique non plus, sauf les travailleurs frontaliers, mais ils votent en France. Et le résultat était contraire aux espérances de ceux qui l'ont mis en route, parce que, à mon avis, donc montrer des résultats d'élections présidentielles une semaine avant les présidentielles, c'est pour montrer l'exemple qu'il faut suivre.
Absolument.
C'est loupé.
C'est raté complètement. On est bien d'accord.
Encore une gamelle de plus.
Espérons que ça se poursuive.
Espérons que ça se poursuive. Oui, effectivement. Donc en introduction, on avait. Quelques petites informations sur le Canada. C'est un Québécois qui parlait. On parle éducation, il prononçait le mot banque.
Donc là, on a eu un tour complet de la situation telle qu'on peut la vivre en Europe, si on n'y prend pas garde, puisque ce qui est fait en ce moment au Canada peut préjuger de ce qui serait fait en France. On a déjà essayé en France, notamment dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, etc., à faire considérer que cet argent-là n'était pas de l'argent bien placé, puisque c'était des dépenses publiques qui permettaient effectivement d'éduquer l'ensemble de la population au départ, puis ensuite de la soigner correctement, de lui donner des retraites normales après un temps de travail normal, puisqu'on est dans le normal en France. Et le gros problème, c'est que la finance au niveau mondial, elle n'entend pas continuer à donner à tout ce qui est le domaine du non-marchand, la place qui lui revient normalement, qui était le pacte social dont parlaient les Québécois et qui était le nôtre dans les années des Trente Glorieuses. Donc sur ce domaine-là, on est bien dans une situation où on grignote un petit peu à la fois avantage acquis sur avantage acquis, dans le domaine du travail, dans le domaine des conditions de travail, dans le domaine des rémunérations, dans le domaine de l'ensemble de la vie au travail. Ensuite, dans le domaine du traitement de la santé, on est de plus en plus en France en train de faire payer les gens pour pouvoir se soigner. Et on voit bien qu'il y a des gens qui n'y arrivent plus, qui ne se soignent plus, qui ne vont plus chez le dentiste, etc. etc.
Ce qui voudrait dire, là, c'est que dans le temps, peut-être que ça se fait encore, à la naissance d'un enfant qui pouvait devenir un petit soldat derrière, on lui délivrait un livret d'épargne.
Un livret A,
Un livret A.
Absolument.
Et donc maintenant, moi, si j'ai bien compris la petite audio, parce que vous êtes sur Campus 106,6 et la vidéo, vous l'avez
vu. Oui, on a la bande sonore.
Donc il faut aller sur notre site internet à ce moment-là.
Voilà.
Eh bien là, il va falloir qu'on, dès le départ, dès la naissance, on ouvre un prêt. C'est ça
on va Exactement. Aller...
Donc, on un va... prêt, oui. On va donc tout de suite créer un compte en banque et possibilité...
Pour qu'on ait le droit de vivre. Qu'on ait le droit financier de vivre, ce qui est quand même assez paradoxal.
Non,
puisque...
attendez, c'est... Ouais. On en est là, moi, au discours, c'est remarquable, cette intervention-là. On se marche sur la tête, je crois qu'effectivement...
Complètement. Et donc, on avait commencé à faire ça en France, notamment pour l'éducation. C'est parce qu'il y a eu des luttes étudiantes très très importantes en France... contre ce système qui consiste à augmenter de plus en plus les droits d'entrée, d'inscription, etc., et de vie au niveau notamment de l'université. On reste encore en France avec une université qui n'est pas trop chère, quoique quand on regarde, il y a une privatisation rampante qui se produit avec les grandes écoles, etc., où là, les tarifs sont prohibitifs, je veux dire. Donc on est sur un système qui peut très vite glisser vers le système qu'on est en train d'essayer de mettre en place au Québec, ou ailleurs d'ailleurs, qui est mis en place. Quand on regarde les prix des études aux États-Unis, c'est clair que c'est pour les riches. C'est pas fait pour les pauvres.
Oui, et d'ailleurs, aux États-Unis, donc, tous les étudiants s'endettent, hein, ou les parents des étudiants. Et je suis tombé sur une petite nouvelle qui explique peut-être qu'on essaye de généraliser le système états-unien au Québec, parce qu'il faut des sous, il faut des sous pour boucher les trous. Donc la dette des étudiants états-uniens a quintuplé au cours des dernières 12 années pour atteindre 1000 milliards de dollars américains, soit une dette moyenne par étudiant de 25 000 dollars. Donc une autre bulle spéculative attend l'économie du voisin du Sud et risque de déstabiliser encore plus l'ensemble du système financier, déjà fortement déstabilisé. Hein. Ça doit être sur le blog de Paul Jorion que j'ai trouvé ça.
Mais le système, c'est clair, le système vit de l'endettement. Et c'est l'endettement des ménages, maintenant des étudiants, puisque les parents n'ont même plus les moyens de le faire. Donc des étudiants, on leur dit, maintenant, vous empruntez à titre personnel et vous rembourserez à titre personnel. C'est-à-dire, quand vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à rembourser le produit de vos études. Le pauvre gars qui était tout à l'heure au Canada disait « je vais en prendre pour 40 ans ».
Exactement, c'est fait pour.
Donc c'est bien fait pour constamment avoir les chaînes du crédit, de la banque, de la finance sur la vie des gens.
Comme ça, tu ne feras pas grève parce que tu dois payer tes mensualités.
C'est très 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 clair. Bien évidemment, on paye très mal les gens. Pourquoi ?
On ne les paye pas dès le départ parce qu'on renouvelle des stages.
Absolument.
D'une façon. Voilà.
Alors à propos de stages, une anecdote qui est arrivée à la fille d'un de mes amis. Donc elle est à l'université, elle devait faire un stage, et sa professeure principale lui proposait un stage à la Guadeloupe.
Sympathique, ça.
Un stage en entreprise à la Guadeloupe, aux archives
frais,
de la
Guadeloupe. Frais
payé ? Bah non. Oui, voilà. Alors, cette jeune fille a dit, mais je peux pas, enfin, je n'ai pas les moyens, mais faites un prêt.
Voilà, tout à fait.
Attends, à l'université, donc, les maîtres de stage qui commencent à dire, faites un prêt.
On voyait arriver ça de plus en plus à l'université, et voilà. Notamment dans tous les secteurs. Bon, moi, j'étais en économie, ça va, parce que l'économie étant pour moi une économie politique, je n'orientais pas les étudiants vers ce type de stage. Par contre, en gestion, en finance, etc., c'était déjà le cas. On envoyait les gens à l'aventure. Il fallait obligatoirement passer au moins aux États-Unis. Il faut aller au moins en Angleterre. Il faut voir comment font les traders, puisque
ils sont là-bas.
Ils sont là-bas et qu'ils continuent à sévir de mieux en mieux, d'ailleurs. Et donc, on est sur un système où, de plus en plus, l'endettement va se substituer à l'argent qu'on peut gagner normalement. Moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je n'étais pas endetté du tout. Je payais des études normalement, j'avais dû un petit peu travailler pendant les vacances pour payer mes frais d'inscription, mais c'est tout. Après, on vivait avec le resto U, etc. C'était pas trop cher, il y avait de quoi faire. On pouvait prendre un petit job à côté et continuer ses études.
On faisait des études, voilà.
On faisait des études. On n'était pas obligé de travailler, aller faire la caissière le dimanche entre 10h du matin et puis 22h le soir, ou ailleurs d'ailleurs. Et puis, pour pouvoir ne serait-ce que manger à peu près normalement, payer un logement qui est de plus en plus cher avec la spéculation foncière, etc. etc. Donc on regarde sur l'île chaque année, quand on arrive en début septembre, début octobre, le nombre d'étudiants qui n'ont pas de logement pour pouvoir suivre leurs études sur place devient de plus en plus considérable parce que le parc diminue, parce que les loyers sont de plus en plus chers et que ça devient totalement inaccessible et qu'il n'y a pas de logement ou très peu de logements étudiants. D'accord ?
Voilà, ou alors bon, il y a des logements étudiants, mais on les a laissés se dégrader depuis 20 ou 30 ans. C'est...
Je regardais ici en passant.
Avant de les raser.
Je regardais en passant aussi l'état de certaines pelouses du campus. Ça commence à être un peu la forêt vierge.
Oui, les bâtiments aussi.
Donc les bâtiments, donc l'entretien est minimum. Alors, on dit que les universités sont devenues autonomes. Autonomes, pourquoi ? Et qui va financer tout ça ? Derrière, c'est encore la même chose. C'est-à-dire des universités à l'américaine avec des fondations derrière, avec des financements qui sont des financements privés. Et qui dit financement privé à l'université dit bien entendu orientation de ces financements et de ce que l'on fait dans l'université. Bonjour la recherche.
Voilà. Et il y a un petit détail aussi qui est rarement précisé, mais dans mes lectures peu saine. Les universités autonomes, ça coûte très cher. Un, il faut que l'université se fasse connaître des futurs sponsors et autres. Deux, se fasse connaître à l'étranger. Et tout ça, ça coûte des sous.
Bien entendu, parce que là, ça devient du marketing.
Du marketing. Donc sur un produit quelconque qu'on achète, il y a souvent 30% de frais de marketing,
tout
c'est ça ?
Tout à fait.
Il faut rajouter 30% au budget de fonctionnement des universités.
Pour arriver à un classement comparatif qui vaut rien au niveau mondial sur les universités. Oui. Je veux dire, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans les universités françaises, c'est tout aussi bien que ce qui fait au niveau des universités américaines ou anglaises. Hein. On n'a pas à rougir du tout en France de ce qu'on fait. Hein, loin s'en faut.
Ouais. Donc, ça c'était l'université. Alors... Une petite pause, on a parlé des élections tout à l'heure. Qu'est-ce qui se disait en Suisse sur les élections en France le dimanche des élections? Donc un petit extrait de la TSR Radio Suisse Romande, émission La Soupe, dont vous avez déjà entendu parler sur cette antenne.
Monsieur, s'il vous plaît, bonjour,
ouais,
bonjour monsieur.
Salut, man.
Alors, vous venez de voter pour élire le futur président de la République, je peux vous demander pour qui vous avez voté?
Ouais, bien sûr, attends, si je me suis pas trompé de bulletin, parce que là, je me vois plus les mains.
Et pour qui vous avez voté?
J'ai voté pour François Hollande.
Ah, par conviction, ou c'est plutôt un vote anti-Sarkozy?
Ouais, non, c'est plutôt parce que ça, il me fait rêver.
François Hollande vous fait rêver?
Il me fait rêver.
Ah ouais? Comment ça?
Tu vois, mec, c'est un type qui porte le nom d'un pays où le cannabis est en vente libre, quoi. Alors ça me fait rêver, tu vois.
D'accord, d'accord.
Salut.
Ah, bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Vous venez de voter, je suppose que vous êtes française.
Oui, je suis française. Et alors, ça te pose un problème? T'as quelque chose contre les étrangers?
Non, rien du tout. Mais je voulais juste vous demander pour qui vous avez voté.
Moi, j'ai voté blanc, comme Marina l'avait dit. En même temps, il n'y avait pas besoin de le dire. Au Front National, quand on a le choix, on choisit toujours le blanc.
Oui. Et pour les prochaines élections législatives, vous allez aussi voter Front National?
À ton avis, qu'est-ce que tu crois, le petit Suisse? Évidemment que je vais voter Front National. Il y en a assez, tous ces étrangers en France qui viennent profiter de nos richesses. Faut les foutre dehors.
Mais si le Front National arrivait au pouvoir, vous retourneriez vivre en France?
Non. Je suis venu vivre en Suisse pour gagner plus d'argent et avoir une vie plus agréable. Je vais pas changer. Faut être cohérente avec soi-même.
D'accord, effectivement. Monsieur, bonjour.
Salut, c'est Johnny.
Oui. C'est vrai que vous votez en Suisse, puisque vous êtes domicilié à Gstaad.
Où ça?
À Gstaad.
Je connais pas.
J'imagine que vous avez voté pour votre ami Nicolas Sarkozy.
Non, moi, j'ai pas voté. J'ai donné une procuration à Laetitia. J'ai préféré que Laetitia vote à ma place, parce que pour moi, c'était impossible.
Qu'est-ce qui était impossible?
D'être sûr à 100% de mon choix.
Hein? Vous saviez pas qui choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy?
Si, moi je voulais voter Sarkozy, mais comme sur le bulletin il y a que les noms et il y a pas la photo, j'aurais jamais été sûr à 100% d'avoir choisi le bon bulletin, toi.
Un extrait de la radio suisse romande, ce qu'il disait sur les élections présidentielles. Le jour des élections présidentielles, donc c'est une émission du matin, ils pouvaient pas dire autre chose. Des élections, il y en aura en France, les législatives ce week-end. Il y en a eu en Grèce,
il y en aura en Grèce en même temps,
si mes souvenirs sont exacts. En pleine crise financière.
Avec des gros
enjeux. Ils ont mal voté, puisque leur gouvernement n'a pas pu dire oui aux cochonneries de l'Union européenne.
Tout à fait. Et donc le gros problème auquel on va être confronté, que ce soit de toute façon l'Allemagne qui ne veut rien entendre et qui veut rester sur une autocratie financière strictement libérale, que les autres pays qui commencent à souffrir de plus en plus à tous les niveaux, ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est une préfiguration de ce qui peut se passer au niveau européen, au niveau global. La Grèce, elle va voter. Si j'ai bien compris l'enjeu des élections avec l'équivalent du Front de Gauche en Grèce, c'est la sortie de l'euro de la Grèce, puisque la Grèce est dans l'incapacité de toute façon de faire face à son niveau de dette par rapport à ce qui a été fait depuis des années et des années. Et il y a eu malgré tout X plans successifs d'aide financière à la Grèce, excusez-moi. Et ces aides financières à la Grèce n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit, puisque sur le fond, À partir du moment où il y a un trou qui est important relativement à la création de richesses dans le pays, et que l'on fait une politique d'austérité derrière, on est en train de faire quoi ? On est en train de tout simplement diminuer la possibilité de créer des richesses. Comment on peut rembourser des trous de plus en plus importants en ne créant plus ou en créant de moins en moins de richesses, puisque les gens sont mis au chômage, etc., etc. Donc les richesses n'existant plus et en ne créant plus de richesses, on ne peut pas rembourser des dettes qui s'accumulent. Non seulement les dettes s'accumulent, mais les taux d'intérêt deviennent prohibitifs puisqu'il faut emprunter de plus en plus cher. Et donc la Grèce, elle est dans un état qui ne permet pas de faire un redressement économique et politique véritable. Et donc la seule solution ou une des solutions les moins mauvaises pour la Grèce, ça serait de sortir effectivement de l'euro. Alors est-ce que c'est forcément une catastrophe pour l'Union européenne ? La Grèce est un pays qui est petit. Ça ne poserait pas fortement question au niveau de l'Europe si la Grèce sortait. D'ailleurs, les Allemands seraient relativement contents si la Grèce sortait. Hein ? Donc ce qui en dit long sur la solidarité européenne affichée depuis des lustres pour nous vendre l'Europe, cette Europe-là, tout au moins, l'Europe libérale.
Les sociétés de services allemandes retestent les distributeurs de billets en drague.
ça doit être ça. Et donc,
les imprimeurs.
Bah oui, donc il y aura de la main-d'œuvre à bon marché, encore une source nouvelle de main-d'œuvre à bon marché. Il y en a un petit peu partout maintenant en Europe. Bon, donc on est sur un système qui marche sur la tête. Je reprenais un petit peu des statistiques que j'avais mises dans le livre sur l'articulation entre la finance et puis l'économie réelle. Quand on regardait le PIB, le produit intérieur brut, la création réelle de richesse par rapport à la totalité des mouvements financiers sur une année, le PIB mondial représente à peine 3% des mouvements financiers. 3%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 3 euros de richesse créée quelque part, il y a 100 euros de finance qui se baladent. Ce qui est fou. Je veux dire, c'est un petit peu la même chose que nos Québécois de tout à l'heure. Ils sont déjà obligés de s'endetter au départ avant d'avoir créé la moindre richesse, avant d'avoir même la conception de ce que c'est que la richesse. Et on est sur un système qui marche sur la tête. La Grèce, elle ne pourra pas faire face de toute façon à son endettement. C'est pas possible. Un autre pays qui est en train de connaître la même situation, c'est l'Espagne. On vient de voir en Espagne que les banques sont endettées à des niveaux des dizaines de milliards, et maintenant on commence à parler de centaines de milliards d'euros de dettes, avec la crise de ce qui faisait la gloire de l'Espagne, le secteur immobilier. On ouvrait une revue, un journal économique il y a 5 ans, le miracle espagnol, c'était le miracle de quoi ? De l'immobilier, avec l'immobilier bien entendu commercial, l'immobilier qui est l'immobilier lié aux vacances, etc., sans s'apercevoir qu'on était en train de construire, justement des châteaux en Espagne. Et ces châteaux en Espagne, les banques sont en train de payer le prix, puisqu'il n'y a personne qui peut y aller, à des prix qui ont monté avec une bulle financière qui s'est créée au niveau immobilier cette fois. Et donc, j'écoutais les chiffres qui étaient donnés il y a quelques jours, ça devenait affolant, quoi. Au départ, c'était 40 milliards pour les banques. Après, on a passé à 100 milliards. On serait à 300 milliards d'euros de dettes des banques espagnoles.
Alors, Benoît Boussard, vous dites, bon, la Grèce, c'est pas grave, pas trop grave, c'est un petit pays.
C'est petit.
Après, vous dites l'Espagne, c'est sur le point. Bon, c'est pas peut-être encore.
Quatrième économie
européenne.
Après,
on rajoute le Portugal. Et après, on rajoute l'effet domino sur l'Italie. Et pourquoi pas la France. Alors, ça va devenir grave à partir de quel moment ?
Ça devient grave à partir de l'Espagne. Ça, c'est clair. Si l'Espagne s'enfonce sur une crise financière sévère, ça veut dire que dès le départ, la France sera impliquée. Pour une raison simple, c'est que les banques françaises sont très impliquées en Espagne, et sont, comme elles sont impliquées d'ailleurs en Italie. Et donc, s'il y a des faillites qui existent et qui se produisent en Espagne, il y aura un contre-coup immédiat pour le système bancaire français, immédiat. Et donc là, ça peut devenir très sérieux pour tout le monde. J'ai entendu hier qu'on s'entretenait au niveau du G7 par téléphone. Bon, c'est sympathique de s'entretenir par téléphone. On aimerait bien que les citoyens participent un petit peu à la manière dont on va solutionner tout ça, parce que on solutionne pour l'instant dans le sens de la finance. C'est-à-dire qu'on dit, mais on va mettre de l'argent. Et on emprunte à qui ? On emprunte aux mêmes financiers qui nous ont mis les pieds dans quelque chose que je nomme pas, jusqu'au cou. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ? On demande à ceux que l'on a sauvés de venir nous donner de l'argent, mais contre intérêt, et des intérêts de plus en plus élevés. La Grèce, la Grèce ne sait plus financer, l'Espagne, plus personne ne veut lui prêter. Qui va prêter à l'Espagne ? Les Espagnols ? Mais les Espagnols, il y a combien de taux de chômage en Espagne ? On est entre 30 et 40% de taux de chômage. Donc, les Espagnols commencent à être dans la situation des Grecs et des Canadiens, qui vont se retrouver avec des taux de chômage considérables, des créations de richesses qui sont en panne. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de création de richesses, on ne peut pas faire tout ce qui était fait auparavant sur les équilibres macroéconomiques avec d'un côté le système marchand, de l'autre côté le système non marchand. Moi, ce qui m'énerve particulièrement d'ailleurs, c'est que on dit toujours le système non marchand. Bah, oui, c'est un système non marchand, mais ce n'est pas un système qui est économiquement inutile. Est-ce que les médecins sont inutiles ? Est-ce que les infirmières sont inutiles ? Est-ce que les enseignants sont inutiles ? Est-ce que les gens qui créent les infrastructures sont inutiles, etc. Quand Mickey est venu en France, on a ouvert une gare TGV pour Mickey. On a ouvert des autoroutes pour Mickey. On a ouvert des gares RER aussi pour Mickey. Mickey s'en est très très bien sorti et la valorisation de Mickey, excellente. D'ailleurs, les finances locales ont récupéré plus que ce qu'elles ont mis initialement en termes d'impôts et en termes de recettes fiscales par rapport à ce qui avait été dépensé. Ce qui veut dire que des infrastructures bien pensées, lorsque derrière il y a des créations de richesses, même si je crois que la création de richesses par Mickey, c'est pas terrible, mais enfin bon, il y a des gens, le jeu fait partie des, après tout, des choses que l'on peut envisager pour se reposer, vivre collectivement, faire en sorte que les enfants soient agréablement reçus dans certaines conditions, etc. Bon, donc, on peut très très bien récupérer des ressources non marchandes de la valeur marchande et faire autre chose. Quand vous êtes bien soigné, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous travaillez normalement. Quand vous n'êtes pas bien soigné, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous êtes en arrêt de travail. On vous dit vous êtes en arrêt de travail et puis ça va pas. Ben, oui, ben, si on peut pas travailler physiquement, je veux dire, je vois mal comment on peut créer des richesses aussi. Et c'est vrai aussi bien pour le secteur productif lourd. Je parle pas simplement des gens qui sont dans la sidérurgie, qui travaillent effectivement à la chaîne, etc. Mais c'est vrai aussi pour des tas d'activités de service. Des gens qui s'occupent, par exemple, des personnes âgées dans des maisons de retraite, etc. C'est un boulot très, très difficile. Très, très difficile. Et ces conditions de travail qui sont là font que, bon, les gens, ils sont déjà soumis à du stress, etc. S'il n'y a pas suffisamment de personnel, ben, qu'est-ce qui se passe ? On reporte les uns sur les autres ou on soigne mal les gens qui sont dans ces maisons de retraite ? Et on soigne mal. Quand on regarde, par contre, les résultats des gros groupes qui ont investi dans ces maisons de retraite, ils sont montés en flèche. Sont montés en flèche. Et il y a des grands groupes qui se spécialisent de plus en plus dans les maisons de retraite, parce que ça rapporte de l'argent. Alors, ils payent mal leurs salariés, et la plus-value, comme d'habitude, elle va dans la poche des mêmes personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inconcevable. On part de quelque chose qui est, a priori, très très vaste, hein, comme la question espagnole, mais on arrive toujours ensuite à des choses très très concrètes, parce que la vie, c'est concret. Les Espagnols qui ont pensé pouvoir vivre sur un système qui était un système immobilier, etc., ne se sont pas aperçus que derrière, les banques faisaient un petit peu n'importe quoi, créaient beaucoup trop de types de logements pour des gens qui ne pourraient pas y accéder à des prix qui étaient inabordables. On pensait que tout le monde allait se ruer là-dessus. Conclusion, ben les banques, elles sont en train de faire faillite. Les Espagnols, d'ailleurs, ils sont très prudents. Ils commencent à retirer leur argent des banques et ils se disent jusqu'où ça va aller.
Hein. Donc, les Grecs aussi.
Hein. Les Grecs, voilà, c'est clair.
Les distributeurs fonctionnent.
Hein. Les distributeurs fonctionnent à outrance et en Espagne, c'est la même chose. Alors, s'il y a des faillances de banques espagnoles, il y aura vraiment le feu sur l'euro au niveau européen. Et d'abord pour Mme Merkel. Parce que Mme Merkel, ses clients, c'est les Européens majoritairement. Et donc, s'il n'y a plus de clients européens, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le libéralisme toute seule de son côté ?
Alors, oui, et puis je dirais que dans les autres pays d'Europe, hein, les augmentations de salaire et autres, votre pouvoir d'achat baisse, et les produits que vend l'Allemagne, qui s'adresse plutôt à une classe moyenne aisée, bah, cette classe moyenne aisée, elle se fait grignoter tout doucement, puisque vous êtes médecin, vous devez payer des études de médecine à votre fils, ça coûte cher,
on fait des
ça va coûter de plus en plus cher, et bah, il s'achètera moins vite sa nouvelle Golf.
Ou sa nouvelle Mercedes.
Ou sa nouvelle
BMW, oui, c'est clair.
C'est tout con, mais...
C'est exactement ça.
Alors moi, je vois un autre danger, là, quand on dit, effectivement, il n'y a plus d'euro, comment on va continuer de vivre, hein, c'est évident, il n'y a plus d'Europe, on va continuer de vivre. Mais je crois que là, à ce moment-là, moi, je vois un autre aspect, c'est que ça peut aussi favoriser les pouvoirs extrémistes. Parce que tous les États, tous les partis nationalistes n'attendent que ça, que l'euro se plante.
Ah ben ça, c'est
et je crois, et on s'est déjà parti, bah ouais. Mais ils attendent vraiment que ça. Ouais. Et moi, je trouve que là, on en arrive un peu dans l'antichambre du fascisme.
Oui, oui. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé après la grande crise de 1929? On est en train de revivre quelque chose qui est assez semblable. En 1925, on a eu derrière l'Italie avec Mussolini et on a eu derrière Hitler. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, toutes les démagogies sont prêtes à pénétrer à fond dans le système où le repli sur soi, la nation, etc., font que on n'a plus qu'à jouer le rôle national en pensant que le national va subsister. Ce qui est une bêtise sans nom. On ne pourra pas s'en sortir en dehors d'un système européen, mais d'un système européen modifié. C'est-à-dire que si on se replie sur soi-même, de toute façon, la France ne vit pas 10 jours, elle repliée sur elle-même. Elle ne vit pas 10 jours. Où est-ce qu'elle va s'approvisionner en pétrole? Où est-ce qu'elle va s'approvisionner, ne serait-ce que pour ses voitures? Je regardais les balances commerciales récemment.
Voilà. Alors ça, c'est un sujet qui a disparu totalement depuis 5-6 ans de tous les... Alors, on nous serinait tous les jours que la balance commerciale était en déficit, la balance commerciale française, il y a 10-20 ans. Là, on n'en parle plus. Oui, il n'y a plus qu'une seule balance commerciale qui semble positive dans l'Union européenne.
Ouais, c'est celle des Allemands.
Voilà.
Mais le seul problème, c'est que quand on regarde la balance commerciale française, il y avait une comparaison qui était faite entre 2002 et 2010. En 2002, la plus grosse balance déficitaire, c'était le taxi d'habillement. La mondialisation était déjà passée par là, etc. Les délocalisations, ainsi de suite. L'automobile était positive. Quand on regarde 2010, l'industrie automobile en France, la balance commerciale est négative. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on produit plus de voitures françaises. Enfin, avec un nom français, s'entend. Mais que l'on a délocalisé tout un ensemble de processus de production qui étaient faits en France par des groupes français, Renault, PSA, etc. Mais que, dans l'intervalle, on a commencé là aussi à délocaliser pour avoir une main-d'œuvre de moins en moins chère. On a commencé à internationaliser, à racheter des groupes étrangers, Dacia, etc., par exemple, pour Renault. Et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Il se passe que la balance commerciale qui était positive devient fortement négative. Quand on regarde la première balance commerciale négative maintenant, c'est dans les produits électroniques. Ce qui n'était absolument pas le cas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc, le textile est en deuxième position maintenant. Il a été dépassé par tous les produits électroniques. Pourquoi ? Parce qu'on s'est désengagé de toutes ces activités-là. Alors, bien entendu, les balances commerciales, il faut toujours prendre avec précaution. Hein, parce que la division internationale du travail fait que on monte quelque chose à cet endroit, on monte quelque chose à cet autre endroit, etc. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on a une balance déficitaire avec l'Allemagne ou avec la Chine, etc. Mais la Chine elle-même achète plein de trucs ailleurs. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est d'où ça vient, c'est ailleurs. Par exemple, la Chine s'approvisionne beaucoup sur des produits très spécifiques auprès du Japon, etc., ne serait-ce que par exemple dans l'électronique. Et donc, si en fin de parcours, on achète par exemple des tablettes chinoises, ces tablettes chinoises apparaissent dans l'excédent commercial chinois. Sauf que pour faire ces tablettes, les Chinois ont dû acheter plein de choses ailleurs. Et ils ont dû acheter des choses aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Mais n'empêche... Nous, on ne produit plus rien. Et ça a été une catastrophe totale depuis 5 ans dans le domaine industriel. D'ailleurs, il y a un ministre du redressement industriel. Je lui souhaite bon courage.
Redressement donc, productif.
Oui, du redressement productif.
Ouais, donc, on produit, ouais, c'est ça. On produit plus rien. Et donc, pour acheter, il faut emprunter.
Voilà. Bien évidemment. C'est tout con. C'est pas plus difficile que ça. Je veux dire, quand on n'a pas de revenus, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou quand on a des revenus qui n'augmentent pas en proportion de ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'endette. Et ce que je disais déjà quand j'étais venu, il y a 3 semaines à peu près, je disais que l'économie mondiale est une économie d'endettement non seulement des États, parce que ça, c'est ce qui se voit, mais c'est une économie d'endettement des entreprises. Les grands groupes dont je parle dans le livre en question, on voit très bien qu'ils sont lourdement endettés aussi. On voit que les petites entreprises et les moyennes entreprises ont des difficultés à trouver de l'argent auprès des banques. Pourquoi ? Ben parce que les banques, elles ne veulent pas prêter. Elles prêtent déjà suffisamment aux grandes et elles sont déjà suffisamment plombées par des comptes avec des spéculations par ailleurs. Et quand on regarde les ménages sont de plus en plus endettés. La France était un des pays le moins endetté il y a encore 5 ans au niveau des ménages. Comparativement à ce qui se passait aux États-Unis, en Angleterre, etc., le taux d'épargne des ménages français était élevé et le taux d'endettement des ménages français était faible. Faible.
Alors, à contrario aussi, moi, des fois, je regarde des émissions comme ça, pas obligatoirement sur Campus, quoi. Et puis, j'entends toujours des éminents économistes qui disent « Oui, mais la France, elle a énormément de ressources parce qu'elle a énormément de finances en réserve. Elle a des réserves financières énormes. Alors, elle est endettée.
Il y a des grandes banques.
Elle a aussi beaucoup de
moyens. On est d'accord.
Moyens.
C'est ça. Il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire qu'on est toujours, chaque année, à parler des flux. Et donc, le problème des flux, c'est je peux dépenser beaucoup une année, mais si je me suis constitué un vrai patrimoine derrière, c'est pas gênant. Le problème, c'est que les patrimoines sont de plus en plus financiers également, et que quand on se constitue un patrimoine financier, des assurances vie ou des titres ou des choses comme ça, et que d'un coup, la bourse vous fait perdre 50%, votre patrimoine que vous vous êtes constitué en vous endettant, et bien là, chapeau, parce que vous n'avez plus de patrimoine et vous gardez les dettes. Et donc c'est ce qui a fait qu'avec les crises successives et surtout avec ce qui se passait au niveau, disons, des spéculations bien maîtrisées par les banques malgré tout, hein, parce qu'on paye toujours aux banques, on paye pour acheter des titres, on paye pour les vendre, eux ramassent toujours de l'argent. Quand ils font des fusions, ils se font payer tous les frais qui sont liés aux articulations entre les entreprises, etc. Donc elles touchent des services financiers énormes, les banques. Bon. Donc, quand elles font travailler votre argent, même chose. Bon. Et après, elles spéculent avec tout ça. C'est grave. Donc, la décision qui constituerait maintenant déjà en France tout de suite de séparer les banques d'affaires des banques de dépôt est une décision urgente. Il ne faut pas attendre là-dessus. C'est pas quelque chose qu'il faut dire ça sera dans un an ou dans deux ans. Non, c'est maintenant qu'il faut, dès le départ, avoir une position qui consiste à dire les banques, c'est fini, elles veulent s'amuser avec l'argent, c'est leur. On est sur un système de banque d'affaires, elles perdent leur culotte là-dessus, c'est pas grave. Par contre, ce qui est l'argent des déposants avec leur compte bancaire, etc., est à l'abri, avec leur épargne, avec l'utilisation de leur épargne, est à l'abri également. Et donc là, ça serait déjà un premier assainissement important du système financier. À condition, bien entendu, que ça ne se fasse pas qu'en France. Il faut le faire au niveau européen. Il ne faut pas permettre aux Anglais de continuer tranquillement à jouer avec la City. Eux, ils ne veulent pas participer à l'Europe. Pourquoi ? À cause de ça. Ils se sont pris une grosse crise dont ils ne sont surtout pas tirés d'affaire. Quand on regarde quand même l'état des finances anglaises, c'est quand même pas triste. Donc on est sur une articulation qui va se faire entre les pays européens, mais il faut véritablement un changement de cap sur l'Europe pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, par exemple, à l'émergence de nationalismes qui sont plutôt à tendance fasciste, etc., comme on avait connu. Donc il y a des émergences fortes ici. Hein, quand on regarde les nationalismes qui arrivent en Autriche, aux Pays-Bas, en France, partout, on a de quoi être inquiet. Hein.
Ouais, je crois qu'effectivement, donc peut-être avant une petite interruption musicale que André nous prépare, je crois qu'effectivement, le fait de dire, c'est pas de la fatalité, ça c'est quand même un acte politique important. Aujourd'hui, mesure concrète, on doit déjà séparer ces deux types de banques.
Par exemple,
ça, c'est complètement faisable. C'est techniquement, c'est...
On en parle. Même Obama en parle, mais...
Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que non seulement on doit faire ça, mais par exemple, j'écoutais encore des publicités des groupes d'assurance ou des grandes banques. Elles font aussi de l'assurance, elles font des tas de trucs. Mais qu'elles fassent leur métier d'abord.
Exactement.
On va pas dans sa banque chercher un téléphone portable. Enfin, faut pas rigoler. La Poste, elle fait ça. Maintenant, tout le monde fait ça. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. La Poste, elle a un service. C'est un service public qui doit distribuer le courrier, qui doit avoir un rôle de service public. C'est pas quelque chose qui doit commencer à faire vivre des produits financiers. Enfin, une bonne décision qui a été prise, par exemple, c'est le doublement du livret A. D'ailleurs, les banquiers sont furieux.
Ils vont perdre des ronds,
c'est clair qu'ils vont perdre des ronds. Et si en plus on augmente le taux, parce qu'il faudrait quand même augmenter le taux du livret A, parce que c'est pas les riches qui ont investi dans le livret A, quoique je pense qu'ils ont tous un livret A, ça mange pas de pain. Et donc dans ces conditions là il faudrait évidemment que on sépare également toutes ces catégories de services financiers ou de produits financiers, hein, c'est clair.
Oui, donc j'avais des chiffres sur la valeur des banques en France. Hein. Donc depuis 2007, BNP Paribas, donc sa valeur est passée de 108,9 milliards de dollars à 32 milliards de dollars. Donc elle ne vaut plus que 29% de sa valeur, hein, 29,5%. La Société Générale pèse aujourd'hui 12,2 milliards de dollars, soit 14,2% des 85 de l'époque. Je sais pas si vous imaginez, prenez votre livret A, vous avez déposé dessus 15 000 euros, il vous en reste 4.
Tout à fait.
Le Crédit Agricole. Alors lui, il va morfler déjà avec la Grèce. Donc affiche 7,6 milliards de dollars de valeur, de capitalisation, soit 11,6% des 65 milliards de 2007. Bon, on va se faire une petite pause musicale. Ouais. On reste un petit peu en liaison avec le Canada. Tiens, je vous cite une petite dépêche que j'ai...
Parce que 106,6 n'est pas une radio comme toutes les autres.
Alors, au Canada...
Et on ne fait pas n'importe quoi.
À Québec, à Montréal, on nous écoute sur le www.campuslille.com en direct. Et je vous rappelle qu'on peut télécharger les émissions pendant 2 mois. Donc, une petite nouvelle de Radio-Canada que j'ai piquée ce matin, mercredi 6 juin 2012. Donc, un député de Québec solidaire, Amir Kadir, a été arrêté mardi soir en compagnie de 64 autres personnes dans la vieille capitale lors d'une manifestation nocturne contre la hausse des droits de scolarité et contre la loi 78. Après une vingtaine de minutes de marche, les manifestants ont été pris en souricière par les membres de l'escouade anti-émeute du service de police de la ville de Québec, SPVQ, dans le quartier Petit Champlain, sur la côte de la Montagne. Donc ça, c'est 64 arrestations. Il y a une journée où il y en a eu 700. On arrête les gens qui tapent sur des casseroles. En Argentine, ils n'ont pas osé.
Ce sont des dangereux terroristes.
En Argentine, ils n'ont pas osé. Donc, une chanson canadienne. On vous avait passé une sorte d'introduction de cette chanson. Donc, c'est de Jean-François Lessard, Pauvre chien.
Il y a de ces écoles de la vie où l'on ne finit plus d'apprendre. La séduction, le daiquiri, comment s'impliquer pour surprendre. Un gros monstre naît aussi facilement qu'un enfant. Décision au sommet, quelques principes et manque de temps. Il y a toujours un détail qui nous échappe quand on est grand. Une virgule se trompe dans un bail et on massacre des tas de gens. La bonne idée devient un commerce, un grand empire, une carapace contre la vue de la misère qu'un don de charité efface. Bon businessman, ce n'est souvent qu'une impression. Nous pauvres chiens, on est toujours leurs petits champs. Il n'y en a pas un qui ne vaille pas, la peine qu'on s'arrête à son cas. Anciens gauchistes convaincus, leurs culottes dépassent vraiment plus. Ils sont les plus grands collabos de l'ordre établi qui existe, sous prétexte qu'ils sont impartiaux, c'est le changement qu'ils honnissent. Ils traiteront toujours de tout, restant les spécialistes de rien. Ils sont les appendices malades d'un organisme politicien. C'est leur chèque de paye qu'ils épousent, jamais le pourquoi du comment. Rapport de fait et bill de news, c'est pas de l'info, c'est un show qu'on vend. Bon journaliste, ce n'est souvent qu'une intention. Nos pauvres chiens, on avale tout sous perfusion. Par lubie ou par conviction, ils veulent revêtir l'uniforme. Ils sont bourrés de bonnes intentions qui se répéteront pour la forme. On ne dort bien que dans l'habitude, alors habituons-les aux ordres. Ils s'en feront des certitudes, alambiqués pour pas démordre. La justice sera leur grande sœur, le criminel sera toujours noir, le militant agitateur, l'esprit prend des chemins bizarres. Ils seront les chiens de garde de la loi, parfois comme leur père, leur grand-père, mais ils taperont toujours leurs frères si on leur en donne l'ordre une fois. Corps policier, ce n'est souvent qu'une érection. Nous pauvres chiennes, on a toujours peur comme des cons. L'érection, que l'intention joue d'impression. Y'a plus de place que pour égo, myosotis et coquelicot. On lève des monuments aux morts et on laisse moisir les vivants. Si la plaie bat tellement trop tard, c'est peut-être qu'elle croit les puissants. Qu'elle se taire, qu'elle se gèle, qu'elle célèbre ce qu'elle veut, plus rien de trop beau l'interpelle. Elle gardera la famille qu'elle veut. Quand l'ambition vit l'érection, que l'intention joue d'impression, plus de projet, plus de lendemain, chacun ses parts et son lapin. La vérité, ce n'est qu'un flou qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. La liberté, ce n'est qu'un rêve qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. Pauvres chiens.
Jean-François Lessard, le silence sur Radio Campus Lille, après le silence, après la musique, c'est aussi beau que le silence. Benoît Boussemard, donc on parlait finance, on parlait croissance exponentielle ou décroissance exponentielle du capital des banques ou croissance exponentielle des revenus de certains qui ne payent pas d'impôts. Mmh. Finalement, il y a des fortunes régionales par ici. Des gens bien gentils. Ouais. Bon, ils ont commencé avec l'héritage de leur papa. Bon, comme le papa avait beaucoup d'enfants, même si c'était la lénière de Roubaix, si mes souvenirs sont exacts, bon, ça fait pas tant que ça quand
même. C'était pas lénière de Roubaix, c'était Fildard.
Fildard, pardon. Oui.
Fildard, excusez-moi. Fils de Louis Mullier. Et donc, le groupe Mullier a fait des petits à une vitesse assez exceptionnelle. J'ai repris quelques chiffres hier parce que je regardais ça comme ça. De temps en temps, je reprends les chiffres parce qu'ils en publient de moins en moins. Ils sont de plus en plus cachotiers.
La transparence opaque.
Totalement opaque, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les chiffres de 2010, on est en 2012, ouais. Il m'en manque encore. Il n'y a rien sur 2011, sauf Auchan, où ils sont obligés parce qu'ils font ils empruntent sur le marché obligataire, ils empruntent au banquier, justement.
D'accord.
Mais ils ont une très bonne note. Hein. Eux, ils sont faiblement endettés, donc une très bonne note. Et puis, ils ont leur histoire de création d'un groupe Mullier avec un avocat sur le dos. Donc, ils vont bien devoir commencer à publier des comptes au niveau tout en haut de l'échelle. Donc, on va bien voir un petit peu comment ça se passe. Et je regardais les sommes. En 1999, la totalité des fonds propres de la famille Mullier tournait autour de 5 milliards. 6 ans plus tard, en 2006, elle approchait déjà les 11 milliards. Et en 2010, avec de l'argent qui manque, parce que tout n'a pas été publié, on est déjà à plus de 11 milliards et demi. Donc la vitesse d'accumulation, comme on dit, du capital est assez considérable. Quand on regarde d'autres groupes, y compris d'origine régionale, le groupe Arnaud, c'est un groupe d'origine régionale, puisque c'était Ferinel, les maisons Ferré-Savinel, la progression est la même. Même s'ils ont fait des grosses erreurs récemment au niveau de Bernard Arnaud avec Carrefour, là, il s'est vraiment pris une tôle, quoi, mais son titre, il l'a acheté 55, ça vaut maintenant 14 euros. Il est obligé de restructurer partout. Qu'est-ce qu'il va encore payer les pots cassés? Ce sont les salariés. On est en train de préparer un plan avec le nouveau PDG. Ça fait le troisième en trois ans depuis qu'il est rentré. Un plan de réduction d'effectifs drastique, hein, plus de 2000 personnes.
Les salariés, les clients.
Les clients,
les prix augmentent. Les clients travaillent de plus en plus. Ça devient... n'allez pas faire vos courses fatigués. Et les fournisseurs.
Ah, c'est clair. Donc tout le monde, bien évidemment... En gestion, c'est bien. On apprend un cercle sur l'articulation entre la firme et ses environnements. D'un côté, il y a le pouvoir sur les clients, il y a le pouvoir sur les fournisseurs, il y a le pouvoir sur les banquiers, et puis il y a la création de richesses qui se fait dans... Mais on voit qu'effectivement, les pouvoirs de marché des grands groupes comme ça sont phénoménaux, quoi. Donc on est sur des pouvoirs vis-à-vis de leurs clients, ils leur vendent n'importe quoi, à n'importe quel prix. On voit encore des scandales qui ont été révélés ces derniers temps sur la grande distribution, où ils ont été condamnés plusieurs grands groupes, pratiquement tous, à des amendes assez faramineuses parce qu'il y avait des ententes.
Bien sûr. Oui, parce qu'ils sont complices, quoi.
Ah bah, ils sont tout à fait complices là-dessus. Donc on est sur un système, effectivement, où l'argent s'accumule. En même temps, avec des dettes, on disait tout à l'heure, si le groupe Mullier est peu endetté, c'est un des rares peu endettés. Les autres sont quand même aussi endettés à côté parce qu'ils continuent avec leurs amis banquiers à acheter plein de choses et à ne pas prêter, les banquiers ne prêtent pas aux PME comme on disait tout à l'heure. Donc on a un très très gros souci là-dessus. Alors ce qui est important quand même de bien voir, c'est que cette richesse, elle ne tombe pas du ciel. Moi j'ai l'habitude de dire que moi je peux mettre un tas de billets, je le dis toujours parce que c'est important de bien comprendre ça, on peut mettre un tas de billets sur la table ce soir, il n'y aura pas plus de billets le lendemain matin. Et donc ce qui fait qu'il y a de la richesse qui augmente, c'est que ces billets servent à employer des gens et à les faire travailler pour qu'on obtienne des profits. ces profits qui sont là, ils sont faits dans le cadre d'une division du travail. Et bien évidemment, cette division du travail avec tout ce qui est les personnes, ce sont les personnes qui bossent au jour le jour dans toute cette division du travail, du plus petit surtout jusqu'au plus grand peut-être, qui font que des richesses se créent. Ce qui veut dire que c'est les gens qui créent les richesses réellement, c'est pas les grands capitalistes qui sont en haut et qui prennent des décisions, comme on dit, plutôt pour les licenciés. Donc, la puissance des gens est extrêmement importante. Une économie, vous faites une grève d'une journée, vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Je parle pas simplement des services publics, de SNCF, etc. Si une grève se fait dans un groupe d'hypermarchés ou de supermarchés, vous ne vendez plus rien, il n'y a plus de création de richesses, on ne mange pas non plus. Sauf si vous avez constitué des réserves en prévision de votre grève en question. Donc, les gens créent les richesses. Et c'est eux qui peuvent quelque chose. Et ils peuvent quelque chose sur tout. C'est-à-dire ils peuvent quelque chose non seulement sur leur travail, sur leurs conditions de travail, sur leurs revendications pour obtenir des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, etc. C'est fondamental. C'est nous qui créons les richesses. C'est pas le capital qui crée les richesses. C'est les gens qui sont employés par le capital. Ce qui veut dire que, tranquillement, on peut très bien concevoir un système économique où il n'y a pas cette opposition capital-travail. Il y a des systèmes économiques qui ont existé dans l'histoire qui n'avaient pas cette articulation-là. Et donc on peut très bien concevoir un système qui se modifie progressivement et où effectivement les gens prennent en main leur avenir. Et en prenant en main leur avenir, ils prennent en main la division du travail qui vont se constituer avec ce qui leur paraît important. Par exemple, tout à l'heure on citait les systèmes non marchands. On peut créer des richesses énormes non marchandes qui permettent aux gens de mieux vivre. Après tout, on est ici sur Terre pour bien vivre. On n'est pas ici sur Terre pour accumuler des tas de marchandises qui servent à rien, qu'on nous fourgue et puis que, bon, on
qui parlait pollue.
qui pollue, tout ce qu'on veut. On parlait tout à l'heure entre nous de Twitter, de machin comme ça. Moi, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à faire. J'ai pas 100 millions d'amis que je connais pas. J'en ai quelques-uns avec lesquels je m'amuse bien, avec lesquels on discute, etc. Donc, ça, c'est bien. C'est des relations sociales normales. Des relations sociales normales, c'est des relations où on parle de tout, où on parle des repas qu'on peut faire, de la fête qu'on peut faire, des problèmes politiques du pays, comment on peut les résoudre, etc. Par exemple, comment on va voter pour les prochaines élections. Moi, de mon côté, j'ai pas de soucis. J'avais dit dès le départ que moi, je voulais pas avoir, par exemple, le coup de Jospin il y a quelques années. Donc moi, j'ai voté tranquillement pour... comment il s'appelle, notre président normal ?
Hollande.
Hollande, je me rappelais plus du nom.
C'est normal. Dingue ça. T'as vu l'affiche ? Tu crois qu'il est normal de
ça ? Ah non, mais c'est bien cette affiche, c'est champêtre. Ça fait joli. Bon, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu du Chirac corrézien qui revient. Donc, non, bon.
c'est la Hollande.
Oui, on est bien. Donc,
il n'y a pas de souci. Oublié le moulin.
Le moulin, il l'a dans la tête.
Et donc là, moi j'ai pas de souci.
André, là.
Donc, on peut tranquillement continuer comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, effectivement, je disais que notre avenir dépend fondamentalement de nous. Donc, pour les prochaines élections, moi, j'ai pas de problème métaphysique ou quoi que ce soit de dire que je vais voter Front de Gauche, par exemple. Parce que je pensais, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut une orientation à gauche un peu plus poussée que celle qu'on a avec les socialistes. Et que, bien évidemment, ce qui fera en sorte que le pouvoir socialiste prendra, comme il commence à le faire, les bonnes directions, c'est au plus, effectivement, on aura de chances d'avoir une relative contestation dans peut-être le gouvernement s'il y a suffisamment de députés de Front de Gauche ou au niveau national s'il y a beaucoup de voix qui se mettent sur le Front de Gauche. Donc moi, j'ai pas de souci à dire ça.
Hein. Non, Benoît, moi je crois que c'est important ce que vous avez dit tout à l'heure en disant ben, c'est nous qui créons les richesses.
Bien sûr, c'est nous qui créons les richesses.
Donc quand on dit on peut plus rien faire, quand on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais non, ben, évidemment, c'est troublant. On peut pas aller les chercher, on sait même pas où ils sont. Ils sont pas encore sur une autre planète. Ils sont encore quand même sur.
Ils sont bien ici.
Sur la Terre.
Hein. Bien sûr.
Donc, mais on peut. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, oui, le bulletin de vote, ouais, mais ça aussi, ça sert à quoi ? Ouais, on peut. Non, je crois qu'il faut quand même qu'on garde des armes, les armes que l'on a. Donc, on crée des richesses. Donc, on a les moyens de pouvoir s'exprimer dans les instances qui existent encore, ou tout au moins de les gonfler, parce que moi, je crois à ça.
Il faut les augmenter.
Moi, je ne crois pas. Par contre, le bulletin de vote, je vais m'exprimer là-dessus. Moi aussi, je vais voter. Mais à un moment donné, il faut rien comprendre que les politiques, La personne pour qui je vais voter, elle est élue. Elle a une mission. Elle ne doit pas en faire un métier.
On est bien d'accord.
Et là, j'insiste, parce que c'est ça aussi qui va redonner un peu de vitalité aux gens, c'est-à-dire que justement, c'est bien quelqu'un qui les représente.
Tout à fait, parce que c'est ça, quand on parle par exemple du non-cumul de mandat, c'est par définition une mesure fondamentale, parce que le non-cumul des mandats fait qu'on n'est pas dans un système où on fait comme métier de la politique en cumulant tel endroit à la communauté urbaine, tel endroit dans une municipalité, tel endroit dans une agglomération de communes, tel endroit au niveau des députés, dans une région, etc. Les gens deviennent des professionnels de la politique. Oui. Ça ne doit pas exister. Les gens, ils sont au service de la mission qu'ils doivent avoir sur le niveau auquel ils sont placés par les élections.
La politique, ce n'est pas un métier.
Non, c'est vraiment quelque chose qui est un sacerdoce au profit des autres. Et par définition, c'était tout sauf ça. Donc on est dans un système où il faut simplifier, il faut éliminer effectivement tous ces doubles emplois, etc., qu'on a partout. Et puis, bien évidemment, rendre des comptes totalement tout le temps la population qu'on représente et voilà, par rapport à laquelle on les a élus.
Rendre des comptes, c'est ça surtout.
Absolument. Rendre des comptes sur les orientations.
Voilà.
Rendre des comptes, c'est bien dire, vous avez été élu sur un programme qui disait ça, ça, ça et ça.
Que ça devient.
Vous en êtes où?
Par rapport aux mesures. Là, aujourd'hui, justement, on en fait du marketing aussi. On voit des tableaux magnifiques. Ça, c'est le tableau de bord. Moi, je vais faire aussi.
Un PowerPoint.
On dit, voilà. Combien de dossiers ils ont défendus, combien de jours de présence, combien. Mais ça, c'est du pipeau.
C'est comme les chiffres
c'est
de
pas
la
ça,
police.
C'est rendre des comptes.
Bien sûr. C'est comme les chiffres de la police. On disait tout à l'heure le nombre d'arrestations faites ou le nombre de procès dressés, etc. Ça ne veut rien dire. C'est bien entendu sur la gravité des affaires que ça se joue, c'est sur la nature des dossiers que ça se joue. Si on est sur un système qui demande, par exemple, des interventions fortes dans le domaine, par exemple, du redressement des firmes, avec le contrôle des firmes, il faut le faire. Je crois, par exemple, que Montebourg a un rôle fondamental là-dedans. Là, on va le voir au pied du mur. Il a beaucoup parlé. Donc il faut attendre des mesures, mais on attend des mesures concrètes et tout de suite il y a des cas qui sont pendables dans les mois qui viennent ici. Donc on va pas attendre qu'il y ait des décisions qui soient prises comme ça. Il faut une politique économique. C'est pour ça que je fais de l'économie politique. Il faut une politique économique où l'État reprend son rôle fondamental par rapport au libéralisme. Libéralisme, c'est fini.
Donc ce qui s'est fait en Argentine, par exemple, très récemment, où ils ont renationalisé le pétrole.
Absolument.
Et les Espagnols, ils ont encore perdu un morceau.
Exactement, mais on ne pourra pas faire autrement, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi, au contraire, mais il faut une véritable politique fondamentalement européenne sur ces points-là, où on a un ancrage fort. L'Europe, c'est la première puissance économique mondiale, si elle veut se donner, justement, ce qu'on disait, à savoir les efforts que tous les gens, mais les gens de la base, peuvent faire, peuvent travailler. On a des potentiels, mais qui sont énormes. Les gens travaillent.
Sure.
Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on empêche les gens de travailler alors qu'ils pourraient travailler. C'est quand même assez paradoxal. Il y a des gens qui sont formés de plus en plus et ils ne travaillent pas. Ils sont au chômage. Mais c'est du gaspillage, mais énorme de ressources. La première ressource et la seule ressource, de toute façon, c'est l'homme.
Voilà.
Que l'on en soit.
C'est sur ces paroles que l'on va conclure, puisqu'il nous reste 2 minutes.
Oui.
Faudra qu'un jour on pense à faire quelques petites émissions sur les histoires économiques régionales. Moi, je trouve que c'est un sujet que je connais mal et je pense qu'il intéresserait beaucoup les auditeurs. Usinor, la lainière de Roubaix, enfin, ou un tas de choses.
Comme ça, je crois qu'on peut, peut se dire dans la tête. Il y a peut-être demain un prochain rendez-vous encore avec Benoît Boussemard dans nos studios. Hein.
Voilà, il y a des rendez-vous à prendre.
La lainière, c'était quelque chose, oui.
Et à propos de rendez-vous, bon, l'agenda régional, il nous reste 1 minute 40. Je vous rappelle, ce sont les rencontres de la laïcité à Roubaix. Donc, jeudi 7 juin, par exemple, il y a un 7 juin matin, il y a un atelier citoyen pour les classes de lycée sur réservation. Les lycéens et la citoyenneté. Donc, c'est animé par Picardie Laïque en Belgique, la Flazen, la Fève, la FAL, Démocratie, Citoyenneté Active. Et jeudi, à 18h30, 1h, un film de Bertrand Tavernier. Donc, ça commence aujourd'hui.
Ça commence aujourd'hui, c'est pas...
Ça commence aujourd'hui.
Le changement, c'est maintenant.
Le changement, c'est maintenant.
C'est donc aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui.
Et la projection sera suivie d'un débat animé par Sylvie Dubois, doctorante en études cinématographiques à l'Université de Lille 3. Mais c'est sur l'agenda de Radio Campus Lille. Hein. Et j'ajoute que vendredi 8 juin à 18h30, au Théâtre Pierre de Roubaix, il y a une conférence École publique, école laïque, quel avenir ? Avec Michel Gaudichaud et Eddie Calfi. Oui, bah, l'école publique, c'est l'avenir. Et samedi 9 juin, après-midi, il y a le Forum des associations à Roubaix. Et si vous voulez des informations sur l'Islande, il y a Kölfina
Baldvinsdóttir, excusez-moi, je prononce très mal, qui a bien participé à cette révolution islandaise et qui sera à Bruxelles, à Levrette Factory 44 à Bruxelles, samedi 9 juin à 18h précise. C'est sur l'agenda de Radio Campus Lille. Chers amis, au revoir et à bientôt.
Au revoir.